Vous écoutez RFI, il est 13h à Paris, 11h en temps universel. Le journal vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Laurence, bonjour à tous. C'est parti pour 2h30 d'informations, de reportages, de journaux, de décryptage et d'interviews avec beaucoup d'invités aujourd'hui pour revenir à analyser l'actualité. Pendant cette première demi-heure, nous resterons en France où le Sénat examine une proposition de loi. Aujourd'hui, son objectif, fixer un impôt minimal de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Un bon moyen pour son initiateur Gabriel Zucman de faire entrer 20 milliards dans les caisses de l'État.
Quand vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, c'est assez facile de structurer sa fortune de façon à ce que cette fortune génère peu ou pas de revenus taxables.
L'invité politique du jour sur RFI, ce sera le député européen François Calfon. Il répondra aux questions de Véronique Rigolet. Dans RFI Midi également, nous allons revenir avec Fabrice Mourlon, spécialiste de l'Irlande du Nord, sur ces violences racistes qui se déroulent depuis 3 jours maintenant. On découvrira dans le monde de tech une innovation, Arta, des lunettes révolutionnaires qui permettent aux aveugles de percevoir leur environnement. L'invité international, ce sera David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, avec qui on tentera de comprendre les enjeux du nucléaire iranien. Alors que Téhéran, en pleine négociation avec les États-Unis, annonce augmenter significativement sa production d'uranium enrichi. Il sera également question de ce crash survenu ce matin, un avion d'Air India avec 242 passagers et membres d'équipage à son bord. Nous continuerons d'évoquer le sommet des océans qui se déroule en ce moment à Nice, dans le sud de la France, coprésidé par le Costa Rica. Son président, Rodrigo Chavez Robles, accorde une interview exceptionnelle à RFI. Et puis, impossible de passer à côté, la mort de Brian Wilson, chanteur et cofondateur des Beach Boys. Brian Wilson, chanteur et cofondateur des Beach Boys, qui est donc décédé. Voilà, vous avez le programme. RFI Midi, c'est parti. Et on débute tout d'abord avec le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Alban, bonjour à tous.
Et la situation catastrophique à Gaza entre famine, chaos et pillage.
L'internet est désormais coupé dans l'ensemble de l'enclave. Le téléphone fonctionne à minima. Le ministère palestinien des télécommunications parle d'une attaque israélienne sur la dernière ligne principale de fibre optique encore en service. Les équipes de maintenance ne peuvent pas accéder au site où le câble a été endommagé en raison des frappes israéliennes. Tandis que l'entreprise privée chargée de la distribution de l'aide alimentaire à Gaza affirme que 8 de ses employés palestiniens ont été tués dans une attaque du Hamas créée il y a peu. La Fondation humanitaire de Gaza est soutenue par les États-Unis et Israël. L'ONU refuse de travailler avec elle faute de garantie sur sa neutralité. Les Gazaouis prennent d'assaut les centres de distribution alimentaire au péril de leur vie. Témoignage à Gaza recueilli de Jérusalem par Sami Bourrelifa.
Une population affamée réduite au pillage pour se nourrir. Les centres de distribution d'aide sont gardés par des entreprises de sécurité américaines employant d'anciens soldats. Le tout sous la garde de l'armée israélienne qui n'hésite pas à ouvrir le feu dès que la foule s'approche un peu trop de ses positions. Pour Youssef, un déplacé de Deir al-Balah, le désespoir est tel que les gens risquent leur vie pour nourrir leurs enfants.
Ce matin, on s'est réveillé sous les tirs. Les gens ont attaqué, ils ont volé les sacs de farine. Mais ce qui m'étonne, que les gens s'approchent et on ne trouve pas le pain. Oh.
C'est de l'humiliation et de l'avilissement, témoigne cet autre Gazaoui sous couvert d'anonymat.
Ils nous disent par exemple, le centre de distribution va ouvrir ses portes demain à 6h du matin. Les gens commencent à faire la queue en pleine nuit. Ils nous mettent alors à disposition 300 ou 400 colis alimentaires, alors qu'il y a 500 000 personnes qui attendent.
Depuis la reprise de l'aide humanitaire le 19 mai, Israël a autorisé quelques 700 camions chargés de nourriture à entrer dans l'enclave. C'est l'équivalent des besoins quotidiens de Gaza. Jonathan Crix est porte-parole de l'UNICEF à Jérusalem.
Pendant le cessez-le-feu, quand l'aide humanitaire rentrait enfin à l'échelle dans la bande de Gaza, il n'y avait pas de pillage. Le pillage est provoqué par le fait qu'il y a beaucoup trop peu d'aide qui rentre dans la bande de Gaza aujourd'hui.
Le programme alimentaire mondial dispose pourtant de plus de 140 000 tonnes de nourriture aux portes de Gaza, de quoi subvenir aux besoins de la population. Mais c'est Israël qui détermine les quantités acheminées. Sami Bourrelifa, Jérusalem, RFI.
La députée européenne franco-palestinienne Rima Hassan et cinq autres militants du Madlin sont actuellement en route pour l'aéroport de Tel Aviv en vue de leur expulsion. Leur bateau avait été intercepté par les autorités israéliennes au large de Gaza. Ils étaient en détention depuis.
De leur côté, les autorités égyptiennes ont interpellé plus de 200 personnes au Caire.
Des militants pro-palestiniens parmi plusieurs milliers qui convergent vers l'Égypte en ce moment pour participer à une marche pour rallier en bus la ville d'Arish dans le nord du Sinaï, puis Rafah à pied du côté égyptien de la frontière avec Gaza.
En Inde, un avion long courrier de la compagnie Air India s'est écrasé ce matin avec 242 personnes à bord.
230 passagers, essentiellement indiens et britanniques, et 12 membres d'équipage. Le Boeing venait de décoller de l'aéroport d'Ahmedabad dans le nord-ouest du pays et faisait route vers l'aéroport londonien de Gatwick. L'Agence internationale de l'énergie atomique condamne l'Iran pour non-respect de ses obligations nucléaires. Un nouvel avertissement de l'AIEA avant un éventuel renvoi du dossier à l'ONU. Réponse immédiate de Téhéran qui affirme qu'il va construire un nouveau site d'enrichissement. Déjà hier, Téhéran avait menacé de cibler les bases militaires américaines en cas de conflit avec les États-Unis alors que les deux pays ont engagé des pourparlers directs.
Et on reviendra sur cette escalade dans une heure avec mon invité. Je recevrai David Rigoulet-Rose. Il est rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Les manifestations s'étendent aux États-Unis contre la politique migratoire de Donald Trump.
À New York, Saint-Louis ou Denver notamment, nouveau rassemblement pacifique hier soir aussi à Los Angeles, avant le couvre-feu, une mesure prise, dit la maire de la ville, pour arrêter les fauteurs de troubles qui profitent de l'escalade chaotique du président. Les autorités locales démocrates sont vent debout face au déploiement de l'armée décidé par Washington. Mais en Géorgie, dans cet état du sud-est, les Américains conservateurs soutiennent Donald Trump avec toutefois quelques réserves. Le reportage d'Edouard Maille.
Dans cette rue commerciale, en décharge les cartons d'un camion, l'ancien militaire salue la gestion de Donald Trump pour éviter à ses yeux que se répète le scénario des manifestations et émeutes du mouvement Black Lives Matter.
Dans le Minnesota, en 2020, ils n'ont pas contrôlé la situation. Des commerces ont été détruits, des personnes ont perdu la ville a été détruite. Ça aurait pu être évité.
Nora Wagamot, elle, qui se définit comme indépendante avec un léger penchant conservateur, ne sait pas quoi penser de la situation.
Je comprends que c'était peut-être nécessaire. Il faut éviter les pillages, les émeutes et les incendies. On a besoin que l'ordre soit respecté dans ce pays. Mais envoyer l'armée, ça fait beaucoup.
Lucien, lui, soutient les mesures prises par Donald Trump.
D'un côté, je pense qu'il gère la situation du mieux qu'il peut, mais je pense qu'il devrait y avoir d'autres façons de faire, car cela a entraîné plus d'émeutes dans le reste du pays.
Mais il estime qu'il ne faut pas arrêter les migrants qui n'ont pas commis d'infraction pénale et regrette des cas où cela s'est produit. Edouard Maï, Jésus, en Géorgie, RFI.
Washington réexamine bien le projet AUKUS. Ce projet, c'était le partenariat stratégique conclu en 2021 avec l'Australie et le Royaume-Uni.
Il y a un projet qui vise à équiper la marine australienne d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire. Canberra confirme le réexamen, mais assure rester très confiant sur l'avenir d'AUKUS. Les explications de Yelena Tomic.
L'Australie se dotera-t-elle comme prévu d'ici 2030 de 5 sous-marins américains nucléaires de classe Virginia et d'environ 8 autres d'une nouvelle classe à l'horizon 2040? Le doute est permis. Le Pentagone a entamé un réexamen du pacte AUKUS et pourrait bien l'abandonner. D'abord parce que l'industrie américaine n'arrive pas à produire suffisamment de sous-marins. Et dans un contexte géopolitique tendu, notamment entre la Chine et Taïwan, eh bien Washington veut concentrer les efforts sur la production de ses propres sous-marins nucléaires. Un éventuel retrait américain d'AUKUS serait vécu comme un véritable coup de poignard pour Canberra, qui s'était retiré il y a 4 ans du contrat du siècle, un accord conclu avec la France et qui portait sur la construction en Australie de 12 sous-marins conventionnels pour un montant 4 fois inférieur à l'AUKUS, soit 56 milliards d'euros. En Australie, deux anciens premiers ministres des deux bords politiques, libéral et travailliste, estiment que Canberra doit procéder à sa propre révision du pacte ou encore développer sa propre politique de défense.
Les feux de forêt redoublent d'intensité dans l'ouest du Canada. Les flammes dévorent tout sur leur passage. Plus de 3 millions d'hectares sont déjà partis en fumée, attisés par des vents violents et une sécheresse persistante. 35 000 Canadiens ont été évacués. En Irlande du Nord, de nouveau, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue. Troisième soirée de tension dans la ville de Ballymena. Face à face tendue avec la police anti-émeute, cocktail Molotov contre canon à eau. Mais aucun policier n'a été blessé ni aucune habitation détruite. Les dirigeants de la province et Londres avaient multiplié les appels au calme après deux jours de heurts qualifiés de racistes par la police après l'inculpation de deux jeunes adolescents d'origine étrangère pour tentative de viol d'une jeune fille.
Et on continuera de parler de ces violences dans un peu plus de 20 minutes avec Fabrice Mourlon. Il est professeur à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de l'Irlande du Nord. Sur l'île française de Mayotte, 901 cas confirmés de chikungunya sont désormais recensés.
C'est le tout dernier bilan des autorités de santé de l'île de l'océan Indien. Chiffre en progression depuis quelques jours et sans doute sous-estimé d'après le directeur de l'agence régionale de santé, d'autant que la population est réticente à se faire vacciner. Manon Hilaire.
Si le décompte officiel est en dessous de la barre du millier de cas, à l'ARS on le reconnaît, on serait sûrement au-dessus des 1500 contaminations. Beaucoup de patients qui consultent ne bénéficient pas d'un prélèvement sanguin de confirmation pour éviter d'engorger les laboratoires. Pour l'instant, deux foyers d'épidémie touchent principalement l'archipel, la ville de Mamoudzou et Petite Terre. Et face à la hausse du nombre de cas, la vaccination, elle, stagne. L'archipel dispose de plus de 1400 doses, mais seulement une quinzaine de personnes en ont reçu une. La faute à un manque d'adhésion de la population à la suite d'effets indésirables graves survenus chez des plus de 65 ans sur l'île de la Réunion. Mayotte subit aussi encore les conséquences du cyclone Chido qui a ravagé l'île il y a presque 6 mois. Le seul hôpital fonctionne en service réduit. Et pour le directeur de l'ARS, le docteur Albarello, de risque plane.
C'est le risque, un, que les personnels soient malades aussi, par le chikungunya, et deux, c'est effectivement d'avoir un nombre de lits occupés fortement par le chikungunya. Si on avait une dizaine de cas graves, on ampute quasiment 80-70% des places de réanimation.
En cas de besoin, l'ARS prévoit d'évacuer les patients les plus sérieux vers l'île de la Réunion.
Manon Hilaire, il était considéré par Paul McCartney lui-même comme le plus grand parmi les géants des années 60. L'immense musicien, bassiste, chanteur, producteur et compositeur visionnaire Brian Wilson, cofondateur des Beach Boys, est décédé hier à l'âge de 82 ans. Nancy Sinatra assure que sa musique vivra pour toujours. Bob Dylan salue son génie.
Merci beaucoup Karine Bedicha, à tout à l'heure.
RFI. La France à midi.
En France, la taxe Zuckman sur les plus grandes fortunes est examinée au Sénat aujourd'hui. Alors, sauf énorme surprise, le Sénat, dominé par la droite, devrait rejeter l'instauration de cet impôt plancher à destination des ultra-riches, adopté à l'Assemblée nationale au mois de février. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Le gouvernement cherche 40 milliards d'euros d'économies pour son prochain budget et ses débats seront particulièrement scrutés.
Oui, il faut dire que l'idée a fait son chemin et que les économistes poussent pour que cet impôt soit adopté. Dans une tribune dans le journal Le Monde hier, trois d'entre eux ont estimé qu'il s'agissait de la solution la plus efficace pour faire davantage contribuer les plus riches aux recettes publiques. Même le gouverneur de la Banque de France a déclaré que l'effort devait être partagé et juste. Cette taxe Zuckman rapporterait entre 15 et 25 milliards d'euros par an et concernerait 1800 foyers en France qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Elle permettrait de leur faire payer un impôt plancher de 2% sur ce patrimoine. Ces ultra-riches qui payent en moyenne deux fois moins d'impôts que les classes populaires en France. Gabriel Zuckman, le directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité, connu pour avoir porté cette proposition à l'échelle mondiale, était au micro de nos confrères de France Inter hier matin.
Ces ultra-riches, ils payent très peu d'impôts sur le revenu. Normalement, l'impôt sur le revenu, c'est la pierre angulaire de la progressivité fiscale. Mais quand vous êtes extrêmement riche, quand vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, c'est assez facile de structurer sa fortune de façon à ce que cette fortune génère peu ou pas de revenus taxables. C'est comme ça qu'on a un certain nombre de milliardaires qui touchent des milliards de dividendes, mais ces dividendes, ils atterrissent dans des sociétés holding où ils ne sont tout simplement pas fiscalisés. Ensuite, ils sont épargnés, réinvestis, ils peuvent faire de la philanthropie, ils peuvent acheter des médias, etc. Mais tout ça sans avoir à payer d'impôts.
Alors Anne, cette taxe Zucman, elle devrait pourtant être rejetée au Sénat. Pourquoi ?
Eh bien écoutez, la première inquiétude a été formulée par Emmanuel Macron lui-même. Il s'agit du risque d'exil fiscal. Selon le chef de l'État, une hausse de la taxation des plus grandes fortunes a un sens si elle est mondiale. Et il serait, selon lui, illusoire de penser que les gens vont gentiment rester en France, je cite, pour être taxés. Il y a aussi la crainte d'envoyer un signal négatif aux investisseurs étrangers, estime de son côté le Sénat. Sénateur Horizon Emmanuel Capu, qui est rapporteur de ce texte. Si les blocages politiques persistent, les avis évoluent. Un projet plus modeste prend forme à Bercy en ce moment, une taxation qui soit au moins égale à 0,5% du patrimoine des plus riches.
Merci beaucoup Anne Verdaguer. Avant-dernier jour de la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, un sommet où l'érosion des côtes est également au menu des discussions. Car en France, par exemple, 20% du littoral est menacé. Cela concerne les falaises, évidemment, mais pas seulement. De nombreux phares risquent à terme d'être condamnés, comme celui de la Coubre sur la façade atlantique près de Royan. Il doit bientôt être détruit. Alors les habitants qui y tiennent réfléchissent déjà à un moyen d'en conserver une trace. Le reportage pour RFI de Baptiste Coulon.
Attention à la tête, ça serait bien un petit peu.
Gravir les 300 marches en colimaçon du phare de la Coubre, c'est le prix à payer pour profiter d'un panorama exceptionnel.
Après l'effort, le réconfort.
La vue est magnifique.
Alors effectivement, on a l'immensité de toutes parts, donc l'immensité de la côte sauvage. Hein, on voit effectivement les dessins des dunes qui vont dans tous les sens. Et après, évidemment, l'immensité de l'océan. Progressivement, il avance.
Il n'est plus qu'à 150 mètres du phare contre 2 km à la construction de l'édifice il y a un siècle. Damien Jousmet est le responsable du site.
Plus effectivement l'océan va se rapprocher, plus il y a un risque que par capillarité, l'eau puisse passer en dessous. Et ce phare-là n'est pas construit sur un éperon rocheux, on n'est que sur du sable. Donc effectivement, il y aurait un risque après à très long terme pour sa stabilité.
Aucune date n'est fixée, mais l'État va bel et bien déconstruire et non démolir le phare. Le détail a son importance pour cet édifice inscrit aux monuments historiques.
L'objectif, c'est vraiment de récupérer des éléments qu'il faut absolument garder, conserver, d'une part pour les valoriser, mais aussi pour les présenter aux générations qui ont connu le phare actuel et à ceux qui ne l'ont éventuellement pas connu, parce qu'on a vraiment des pépites du patrimoine. Il y a notamment la partie supérieure du phare avec le système de la lentille de Fresnel qu'il faut absolument présenter parce que c'est un bijou de technologie.
C'est la lumière en fait.
Voilà, c'est la lumière tout à fait. C'est une invention qui date de plus de 200 ans qui permet encore à tous les phares du monde de fonctionner aujourd'hui.
Les équipes du phare préparent donc déjà son testament. Un musée, par exemple, pourrait accueillir certaines pièces.
Il y aura une partie plutôt mémorielle avec les éléments actuels du phare. Mais c'est peut-être aussi utiliser des nouvelles technologies pour justement pouvoir présenter des choses qu'on ne pourra plus voir dans de nombreuses années, notamment le panorama actuel. Il y aura un après-phare qui aura peut-être une forme complètement différente, mais qui sera aussi un symbole du territoire dont on sera très fier.
La disparition de cette silhouette rouge et blanche attriste les habitants.
Dans notre culture marine, ces bâtiments, ils ont quelque chose comme une âme. Ici, on aime nos phares et on aime la Coubre.
Raphaël Descamps, adepte de chants marins, lui a donc écrit une chanson. C'est sa façon à lui de participer à l'héritage du phare de la Coubre.
La musique, c'est aussi du patrimoine. Peut-être que cette chanson va faire partie du patrimoine immatériel du phare de la Coubre et que dans des années futures, on continuera à illustrer des reportages avec cette chanson.
Les souvenirs dans les murs gravés. Des générations qui l'ont tant aimé. Ensemble nous jetons une encre d'espoir pour garder vivant notre vieux phare. Le phare de la Coubre est notre fierté. Et dans la tempête nous allons lutter. Ériger nos voix ensemble unis pour garder son histoire
Bonjour Véronique Rigolet.
Bonjour.
Comme chaque midi, vous recevez un invité politique. Aujourd'hui, c'est l'eurodéputé François Calfon qui répond à vos questions.
Bonjour François Calfon.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. À la veille de l'ouverture du congrès du PS à Nancy, on va bien sûr parler de l'avenir du parti à la rose face aux défis toujours du rassemblement. et des alliances à gauche en vue des prochaines échéances électorales. Mais pour commencer, bien un mot sur le débat européen, sur la fixation d'une majorité numérique pour accéder aux réseaux sociaux, débat relancé par le président Macron après le meurtre mardi d'une surveillante par un collégien à Nogent-sur-Marne. François Calfon, est-ce que vous soutenez cette interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui est réclamé également par d'autres pays européens, comme l'Espagne ou bien encore comme la Grèce?
Alors, le débat n'est pas que sécuritaire. Il y a sur la sécurité et la violence, il y a sur la pornographie, avec des acteurs de sites pornographiques qui ont coupé le signal en France. Mais là aussi, je vous donne un autre exemple sur des plateformes chinoises, Chine et Temu, qui, pour vendre leurs choses à bas coût avec une faible sécurité, proposent des jeux addictifs aux jeunes consommateurs. Donc, on a addiction, violence, sexe précoce. Et donc, bien évidemment qu'il faut réglementer tout ça.
Il y a une vraie nocivité des réseaux sociaux.
La réponse, elle est oui, absolument.
À cause des
algorithmes. À cause des algorithmes et puis à cause des contenus. C'est-à-dire que c'est le Far West, les réseaux sociaux. Et avec Monsieur Musk, c'est pire que le Far West. C'est-à-dire qu'on a bien vu, notamment avec les élections en Allemagne, que Monsieur Musk avait mis son réseau social au service de l'extrême droite. Donc tout ça, c'est totalement avéré. Ensuite, il faut légiférer au niveau européen. Et donc, par exemple, l'Europe ne fait pas rien. Sur la base du DSA, elle a lancé une enquête sur Meta, c'était les propriétaires de Instagram, qui est un réseau particulièrement apprécié des jeunes, Facebook, mais aussi WhatsApp, sur le fait qu'il y ait
L'Europe a déjà sa propre réglementation.
Il y a une enquête sur Meta actuellement. Alors l'Europe, elle va jamais assez vite, on va pas se mentir. Hein. Mm-hmm. Mais en même temps, quel est l'impact et quelle est la portée d'une politique franco-français sur ces sujets-là?
On va y revenir, mais déjà, on l'a vu, le président Macron, il dit, voilà, je me laisse quelques mois pour mobiliser les Européens, pour faire bouger les lignes au sein des 27. Pourquoi la mise en place d'une telle majorité numérique pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux est compliquée au niveau européen à mettre en place, et pourquoi ça passe nécessairement par Bruxelles?
Alors, déjà, la masse critique en matière de numérique, elle n'est pas française, malheureusement, ou elle n'est pas espagnole, elle est européenne. Et d'ailleurs, les géants du numérique et des réseaux sociaux s'y sont pas trompés, ils ont tous soutenu Trump. Pourquoi? Eh bien, pour faire en sorte que Trump casse le DSA, casse le DMA, casse la protection des données personnelles qui rentrent dans l'Internet. Donc ça, c'est la... Et à la réponse à votre question, il y a bien sûr la nocivité des réseaux sociaux et de l'Internet sans filtre, le Far West numérique, mais il y a aussi la liberté publique, qui est aussi un principe de notre droit interne en France, mais aussi du droit européen. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Mais quand je n'étais pas député européen, je trouvais que les gens de Bruxelles parlaient toujours une langue équilibrée, on n'y comprenait rien. Il faut aller vers une régulation beaucoup plus forte, et notamment pour les mineurs. C'est une urgence.
Quitte à revenir sur l'actuel règlement européen et la protection des données personnelles, instaurer aujourd'hui un contrôle d'âge est efficace, ça équivaudrait à ouvrir une brèche dans le respect de la vie privée des gens. C'est par ça qu'il va falloir nécessairement passer. C'est ça la difficulté.
Et c'est exactement la difficulté. C'est toujours pareil. Et vous savez, on a eu le même débat sur est-ce que quand vous avez des débordements après les matchs de football où les gens cassent tout au lieu de faire la fête, est-ce qu'il faut entraver les libertés individuelles ou pas? À un moment donné, il y a un ordre public social, il y a un ordre public sécuritaire. Il doit y avoir un ordre public numérique. On ne peut pas tout faire et on ne peut pas déstructurer la société. Parce qu'on parle de ce fait divers qui est tout à fait tragique, qui s'est passé à Nogent. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi d'autres conséquences déstructurantes, quotidiennes, qui ne fonctionnent pas avec des meurtres. Mais par exemple, le harcèlement scolaire, pardon de vous le dire, ça fait des morts tous les jours. Ça détruit les jeunes, les nudes, le chantage, la diffusion de conversations privées. Enfin, on est en train de déstructurer la société, faut pas se mentir.
Ça va être un combat difficile, hein, à Bruxelles. En tout cas, les représentants du secteur numérique à Bruxelles, ils estiment pour le moment que une nouvelle réglementation, ce serait sans doute un peu prématuré.
Ah ça c'est sûr. Hein.
Ouais. Le renard libre. C'est pas gagné dans les prochains.
Le renard libre dans le poulailler libre de la jeunesse européenne, ils sont pour, y compris parce que derrière, c'est pas parce qu'ils seraient profondément malveillant. Mais derrière, on vend des salades, on vend des shampoings, on vend tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a parfois comme ça des sujets qui traversent de manière positive l'ensemble du champ politique européen. Il y a quand même une unanimité, il y a quand même une vision claire du législateur sur le fait qu'il faut être beaucoup plus restrictif sur ces aspects-là.
À défaut d'un accord européen dans les prochains mois, est-ce que la France peut, à elle toute seule, eh bien, ouvrir la voie, comme l'a promis le président Macron, ou est-ce que c'est impossible ?
Moi, vous savez, je suis très critique à l'endroit de M. Macron sur beaucoup de choses, mais là-dessus, je pense qu'il a raison. Alors, après tout, un président de la République en fin de vie politique, il n'a plus de majorité, il doit trouver des sujets de consensus. Et j'espère, enfin, je sais pas si quelqu'un d'hétérodoxe, un libertarien peut-être, vous dirait qu'il faut pas réguler tout ça, mais j'espère qu'on peut trouver un relatif consensus dans la société française pour protéger notre jeunesse.
Les gens seraient prêts, à votre avis, à aller jusqu'à la reconnaissance faciale comme moyen de contrôle?
Bah, vous savez, en fait, pour imposer, moi j'ai un smartphone, j'ai une application de banque en ligne. Ouais. Pour accéder à ma carte bleue, il y a une reconnaissance faciale. Et j'en suis très content, hein. Parce que si quelqu'un vole mon portable, j'ai pas envie qu'il paye avec ma carte bleue. Donc il faut aussi qu'on soit capable, à un moment, d'avoir le discernement nécessaire. Il en va de la sécurité, de l'intégrité morale et physique des jeunes Européens.
Voilà. Vous y croyez, vous soutenez la France. On verra si elle se dotera, hein, de cette majorité numérique pour accéder aux réseaux sociaux dans les prochains mois. Le PS, c'est dans votre actualité, est également à la croisée des chemins. Alors que s'ouvre demain à Nancy le congrès du parti après la courte réélection d'Olivier Faure, inamovible premier secrétaire, ce n'était pas votre candidat François Calfon, vous êtes toujours engagé aux côtés du maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Est-ce que la défaite passée, le bras de fer a laissé des traces? Qu'est-ce qui va se jouer dans ce congrès à partir de demain? Est-ce que, alors qu'on sait, le parti est déjà très mal en point?
En même temps, le parti, il est mal en point. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est encore une grande force politique à l'échelon européen en France. Et on a besoin d'une gauche qui gouverne. Et c'est le Parti Socialiste. Justement, il ne faudrait pas que ce congrès de Nancy, qui ne sera pas la redite du congrès de Marseille, il n'y aura pas d'affrontement.
Pas de nouvelle guerre des roses.
Non, il n'y a pas de guerre des roses. Parce que, y compris, ce serait lamentable d'offrir à un pays qui souffre autant, qui est confronté à des enjeux, à une guerre des roses. Donc on a cet esprit de responsabilité. Pour autant, nous souhaitons et nous continuons à souhaiter qu'il y ait l'affirmation finalement d'une candidature social-démocrate, d'une gauche de gouvernement. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il ne faut pas, monsieur Olivier Faure porte une autre ligne, qui est une ligne unitariste, mais simplement les frontières de l'unitarisme sont à géométrie variable. On a fait tout le congrès à nous expliquer que Mélenchon, c'était plus possible, mais qu'on fait les notes de bas de page, ah oui, mais au municipal, on en a besoin, ah oui, mais s'il y a une dissolution, est-ce qu'on va pas faire le nouveau NFP jusqu'à plus soif? Eh bien, nous disons, moi je le dis avec force, il n'y a pas de NFP possible avec la France insoumise aux élections législatives sur la base de la dérive populiste et d'un antisémitisme d'atmosphère diffusé par la France insoumise.
Alors vous dites qu'il n'y aura pas de guerre des roses et de redite du congrès de Marseille pour ce nouveau congrès de Nancy, mais d'entrée vous nous dites, voilà, on n'est toujours pas d'accord avec la ligne Faure qui vient de remporter les élections courtement, certes, avec cette idée d'une primaire pour désigner un candidat gauche et des écolos.
J'ai le pessimisme de l'analyse et l'optimisme de la volonté. Donc je constate simplement que à la veille des élections européennes, ça fait un an que je suis élu député européen, beaucoup de gens proches d'Olivier Faure nous expliquaient qu'il fallait faire la liste avec la France insoumise. Et finalement, on a eu le courage de suivre nos idées que nous portions déjà, de dire non, il faut une liste autonome. Eh bien cette liste, elle a fait 14%, tandis que celle de M. Mélenchon, anti-européenne, populiste, a fait 9%. Donc j'ai espoir que face au mur du réel, du refus, du rejet à gauche de cette dérive populiste, eh bien, nous puissions finalement définir les atours, les tours. Mais il faut mettre le parti au travail. Il n'a pas travaillé d'un projet de gauche de gouvernement qui fonctionne.
Vous pouvez vous mettre au travail alors que vous n'êtes même pas d'accord, hein, vous venez de le dire, sur la stratégie pour 2027.
Vous savez, souvent,
plomber le combat?
Souvent, les gens sont pas d'accord parce qu'ils travaillent pas. Ils préfèrent faire un tweet pour marquer une opposition. On peut faire le débat à l'envi sur... finalement la palestinisation de la gauche. Ouf. Mais Non, mais ça existe. Enfin, je veux dire, il y a un sud global. Vous êtes bien placé à RFI pour connaître ces débats-là. Mais ça ne répond pas à la question de l'avenir des retraites et notre protection sociale, toute une série de questions. Et moi, j'attends pas. Je fais moi-même mes groupes de travail pour avoir un projet de gauche qui fonctionne.
Le travail contre les divisions. Voilà, ça
merci
sera
à vous, merci à vous.
Merci François Calfon. Bonne journée.
Et merci à vous. Retour de RFI Midi dans moins d'une minute. Restez avec nous.
Tout à l'heure sur RFI. Sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
L'image comme engagement, c'est la première grande exposition consacrée à Marie-Laure Decker. Photojournaliste, portraitiste, témoin des bouleversements de la deuxième moitié du XXe siècle, une tranche d'histoire dans son objectif, à voir à la Maison européenne de la photographie.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.